partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonsoir, vous êtes bien sûr IDFM Radio, soyez les bienvenus dans notre émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM, avec Claude Lévy et Véronique Gastin qui m'accompagnent pour cet entretien. Ce soir, notre invité a au moins deux têtes, peut-être plus, il va nous le dire. Il est médecin, cardiologue et réanimateur, c'est pour la première tête. Il est aussi romancier, c'est la seconde. S'il est aussi créatif, aussi érudit dans son métier de médecin qu'il l'est dans son travail d'écrivain, ça doit être très rassurant d'être reçu dans son service. Il a comme particularité qui nous intéresse ici à ce micro, c'est qu'il vit à Enghien-les-Bains. Il publie un livre passionnant aux éditions du Nouveau Monde intitulé La Violoniste et il sera évidemment question de musique, de musiciens et de culture dans cette émission. Bonsoir Pierre Squara.
Bonsoir. Non seulement je vis à Enghien, mais j'y suis né. Et j'y ai passé pratiquement toute ma vie.
Votre attachement est donc très fort.
Et très ancien et très fort, oui, absolument.
Voilà. Tout d'abord, donc merci de nous recevoir chez vous, dans votre berceau, à Enghien-les-Bains. Et merci aussi à Véronique, qui m'a fait connaître ce roman, qui n'est pas votre premier essai. Vous avez déjà plusieurs livres à votre actif, Pierre Squara.
Oui, j'ai les deux essais, c'est mon troisième roman, et il y en a un quatrième qui est terminé, mais qui n'est pas encore édité.
Alors, on n'aura pas trop l'occasion de parler de vos précédents livres, mais celui-ci est tellement riche qu'il va occuper une grande partie de notre entretien. Vous êtes ancien médecin, vous venez de nous dire en aparté que vous exerciez d'une autre manière le métier de médecin, après une grande carrière de cardiologue et de réanimateur.
Oui, maintenant j'ai une activité plus administrative puisque on m'a nommé directeur médical du groupe, ce qui n'est pas une promotion, mais c'est plutôt une voie de garage. Disons, c'est une façon d'occuper utilement ma retraite.
Voilà. Et cette activité vous a évidemment conduit à rencontrer énormément de patients, évidemment, et d'autres confrères. C'est votre première tête, je dirais, la deuxième étant celle du romancier. Est-ce qu'il y en a d'autres, des têtes chez Pierre Squara?
Il y a la tête du chercheur, mais c'est une partie intégrante de la médecine. Non, il y en a pas d'autres. Sinon, il y a le père de famille, oui, mais, comme tout le monde.
Et de musicien, peut-être?
Alors oui, mais je suis un très mauvais musicien, et il faut voir tous ces livres, parce que mes deux premiers livres tournent aussi autour de la musique, mais ce sont des romans historiques. C'est probablement cet amour pour la musique que je n'arrive pas à exprimer dans ma propre musique qui m'a donné envie d'aller chercher celle des autres.
Alors, on va démarrer cet entretien avec Véronique.
Avec plaisir. Bonsoir, chers auditeurs. Je suis ravie, Claude, de t'avoir fait connaître Pierre Squara et d'avoir fait connaître ce magnifique livre La Violoniste qui est édité au Nouveau Monde, un livre passionnant et je vois d'ailleurs qu'il y a un royal, comme disent les Russes, un royal, hein, piano à queue, blanc, en face du lac. On posait récemment la question à un ministre sur la façon d'organiser son temps et entre sa vie de ministre, forcément très chargée, et celle de romancier. Il disait qu'il écrivait tôt le matin et passait du temps à écrire pendant les vacances. Il disait surtout que chaque vie nourrissait l'autre. En était-il de même pour vous ?
Alors, je pense que vous faites allusion à Bruno Le Maire, et c'est exactement le même emploi du temps. En fait, il y a la phase d'abord une phase de collection de documentation, celle-là on la fait quand on veut. Ensuite il y a la phase de création du scénario, là aussi on peut la faire en conduisant, on peut la faire même avant de s'endormir. Et puis ensuite il y a la réalisation, l'écriture. Alors là l'écriture, il n'y a pas 50 000 solutions, c'est le matin à 5 heures, c'est le week-end, c'est le soir tard, j'ai passé énormément de week-ends dans ce canapé, du samedi matin au dimanche soir, sans pratiquement le quitter. C'est la phase de espèce de diarrhée verbale où il faut que ça sorte. Et puis alors ensuite, il y a la phase de relecture pour faire des belles phrases. Pour moi, je m'attache à la musique des mots, et ça aussi, vous pouvez le faire de manière beaucoup plus facile à des moments perdus. La plus difficile, c'est la période où vous lancez pour écrire.
Le premier pas, on voit ça d'ailleurs dans le roman, La violoniste, ces premiers pas qui sont tellement importants. Alors, cette violoniste, ce roman, nous fait parcourir une partie de la vie d'une jeune fille, d'une enfant, de sa petite enfance, des 9 ans, jusqu'à l'âge mûr. Il se trouve qu'elle... elle est très douée pour quelque chose, mais elle vit dans un contexte familial un peu spécial. Elle vit aux États-Unis, vous placez toutes les situations aux États-Unis. Et est-ce que vous pourriez nous dire dans quel milieu familial elle grandit, cette petite Mélodie qui porte bien son nom ?
Oui, elle grandit dans un milieu extrêmement favorable au développement de son talent. Parce que tout le monde sait que la musique, c'est du talent, évidemment, mais énormément de travail. Et cet enfant naît aux États-Unis, où il y a énormément de professeurs russes, et l'école de musique russe est indiscutablement, ou du moins dans les années 70, une école très 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 devant les autres. Et elle a des parents communistes. Et être communiste.
Ce qui n'est pas banal dans les années 70 aux États-Unis.
À Los Angeles, voilà. Donc ça veut dire que c'est des intellectuels, ça veut dire qu'ils ont une exigence de promotion sociale, et notamment de donner à leurs enfants une éducation la plus parfaite possible. Et par hasard, la mère de Mélodie découvre la méthode de Shinichi Suzuki, qui est, pour faire simple, une méthode qui prétend que la musique, c'est comme les langues, ça s'apprend de manière tout à fait naturelle si on en a les rudiments dès le plus jeune âge. Et donc ses parents admirables vont lui offrir des violons à sa taille. C'est-à-dire qu'elle va avoir des petits violons à 6 ans et ils vont grandir en même temps qu'elle. Elle va appliquer la méthode Shinichi Suzuki, et puis quand cette mère se trouver dépassée, elle va trouver à Los Angeles un professeur russe, et il y en avait beaucoup, des immigrés à l'époque, qui va faire la première étape de son éducation de musicienne, c'est-à-dire d'intégrer le violon à son schéma corporel.
Absolument. Et c'est un moment très très intéressant de ce roman. C'est ce moment où elle rencontre ce fameux professeur Milton Chinsky, qui est lui-même qui a été lui-même initié par la méthode Suzuki, ou en partie. Mais alors, vous décrivez parfaitement quelle est l'importance du schéma corporel dans l'acte même du musicien, dans l'ensemble de leurs gestes, de leurs postures. C'est pas du tout médical, mais il y a quelque chose qui rejoint la posture telle que peuvent les travailler des kinés, des choses comme ça.
Ben c'est tout à fait ça. Et pour devenir un très grand virtuose, faire un concert d'une heure et demie, vous devez votre instrument, ça peut pas être une prothèse, c'est forcément quelque chose qui fait partie de vous. Et c'est lorsque vous avez la bonne position, lorsque vous avez les beaux gestes, que vous n'avez pas de crampes, de tendinites, qui sont des accidents qui émaillent la vie des grands artistes.
Alors justement, on va demander à Véronique de nous dire un extrait de votre livre qui place justement l'importance du corps dans l'idée que Milton Chinsky se fait du musicien, Véronique.
Alors il lui dit tes pieds. J'écartais légèrement mon pied droit. Aucune leçon ne commençait sans cette inspection. D'abord bien poser les pieds, sans raideur, sans bloquer les genoux, en prenant la jambe gauche comme pivot pour se décontracter au besoin. Ensuite, se redresser, rééquilibrer le bassin et le dos en fonction de ses appendices supplémentaires. Replacer épaules, coudes et poignets de manière telle que ses articulations parviennent à libérer les doigts de toute contrainte. Le moindre désir peut alors inconsciemment se transmettre et se transformer, sans le penser ni le vouloir, en une palette de subtiles pressions, propres à travailler le son, le manufacturer.
C'est très beau cette façon de manufacturer le son. Alors on pense à ces postures chez les danseurs, plus rarement chez les musiciens, alors que c'est pour vous, selon vous, et dans l'idée même de la pédagogie de Suzuki et de Milton Chinsky, la base de tout.
Ah ben oui, parce que si, le musicien qu'on voit en concert, il s'entraîne 3 heures par jour. Et s'il s'entraîne 3 heures par jour avec des mauvaises positions, il finit par avoir des tendinites qui altèrent son entraînement, si je puis dire, et qui finalement le handicapent et ne le rendent pas apte au plus haut niveau.
C'est d'ailleurs la difficulté pour ceux qui commencent tard.
Ah oui, absolument. C'est pour ça que la base de tout, c'est vraiment d'intégrer le violon au corps sans que le corps n'en souffre aucunement.
Parce qu'elle a commencé à 3 ans en plus.
Alors, justement, les enfants qui vont dans les conservatoires entendent quelquefois, pas toujours, leurs professeurs leur dire « mais il faut travailler, mais il faut travailler en t'amusant ». Ils l'entendent ça, ils ne comprennent pas toujours. Est-ce que c'est concevable de concilier les deux ?
Alors pour un enfant normal comme je l'ai été, c'est assez compliqué. Mais pour un enfant comme Mélodie, qui a l'oreille absolue, qui découvre le point de résonance et qui découvre comme elle découvrirait la vie, à la fin la musique c'est sa vie. Dans le livre j'explique que elle qualifie les sons, le moindre son. Donc quand un oiseau chante, elle connaît les notes du chant de l'oiseau. Donc sa vie n'est qu'une avalanche de notes. Et elle ne fait pas de la musique, c'est la musique qui s'impose à elle. Elle n'aurait pas pu faire un autre métier, elle ne peut pas faire autre chose. Et elle a une relation au son et à la musique qui n'a rien à voir avec ce que nous, on peut avoir.
Et d'ailleurs, sa première expérience de concert, qui n'est pas rien, puisqu'elle est invitée par un orchestre en Californie, il me semble, un orchestre de chambre, où elle joue du violon comme soliste. Elle a 10 ans et elle est fascinée par l'orchestre, la présence de l'orchestre physiquement, mais elle est un peu exaspérée et très déçue de la prestation de l'altiste. Racontez-nous ça.
Oui, alors pour les heureux enfants et musiciens qui ont l'oreille absolue, ils sont capables de déceler le moindre désaccord sur un des violons. Parce que c'est pas un orchestre de chambre, c'est un orchestre complet, et donc il y a plusieurs violons, il y a plusieurs altos, et si l'un se dérègle, ça crée une impression de cacophonie. Et bon, comme c'était sa première expérience, pour elle c'était insupportable, elle voulait que tout soit parfait, et c'est là qu'elle découvre, et son professeur lui explique que la musique, eh ben c'est l'acceptation de l'imperfection.
C'est très 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 beau. Vous introduisez un concept intéressant, très intéressant, et c'est son professeur là, Milton, qui lui explique ça. C'est que ce concept, c'est l'ostinato. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, parce que vous en tirez un développement, vous, Pierre Squara, sur une sorte de théorie accessible de l'harmonie.
Je vois pas à quoi vous faites allusion entre l'ostinato et l'harmonie. L'ostinato, c'est un mouvement qui se répète. et ça veut dire obstiné, hein. Je ne me souviens pas avoir lié l'ostinato avec l'harmonie.
C'est moi qui l'associe, parce que vous évoquez le boléro de Ravel comme une sorte de répétition, comme ça, où les choses ont l'air de se répéter avec obstination, comme vous le dites, mais tout en créant un univers sonore et un univers affectif, émotionnel, très puissant.
Ça crée une attente, parce que c'est vrai que ce mouvement répétitif, on se dit, il va bien se passer quelque chose. Donc ça crée une attente. C'est un peu comme une figure de style pour l'écrivain. Il y a un certain nombre de figures de style pour le compositeur.
En effet, mais il y a à plusieurs moments du roman, on ne sait pas si c'est un musicien ou un romancier qui écrit. À plusieurs moments, grâce justement à ces différents professeurs, il y a des sortes de petits encarts de théorie musicale très très riche, mais surtout accessible à nous qui sommes soit des lecteurs, soit des auditeurs de musique.
Oui, c'est probablement assez simpliste comme approche. Un musicien professionnel trouverait ça sûrement assez basique, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir pourquoi un morceau nous fait plaisir. Et donc donc l'ostinato, on en a parlé, mais il y a aussi les dissonances, les périodes un peu dissonantes qui nous font attendre la période qui va être plus harmonieuse. Et en fait, toute la culture musicale et les différentes musiques à travers les différentes populations, c'est ce mélange entre les sons, et un Indien n'aura pas la même écoute qu'un Européen ou qu'un Chinois.
Oui, c'est cet effet de tension entre une harmonie et sa résolution. C'est tout ce cycle-là. Et une disharmonie, bien sûr. On va poursuivre notre conversation avec Véronique Gastin.
Mais la discipline d'enfer que suscite la passion de Mélodie pour le violon et pour la musique en général va bientôt se transformer en prison. Déjà, dès le plus jeune âge, elle dit « Maman, j'ai toujours faim ». La face sombre de cette passion dévorante est que cet enfant va s'isoler des autres. Elle va combler la solitude par l'abus de sucreries. Ce qui va la conduire à atteindre les limites de l'obésité, c'est le romancier ou le médecin qui a posé le diagnostic ?
Non, je me suis mis à la place de ces enfants dont la vie est quand même s'ils sont prisonniers de leur passion, et personne ne les force. Mais de fait, ils s'excluent, ils ne vont plus à l'école comme les autres, ils ne font pas du sport comme les autres, puisqu'il faut qu'ils aillent travailler. En général, ils essaient de suivre une scolarité normale, mais les 3 heures de violon, il faut les trouver. Oui, le médecin s'est posé la question, qu'est-ce que ça pouvait entraîner comme dysfonctionnement dans la physiologie de cet enfant. Et j'aurais pu la rendre anorexique, mais donc je l'ai rendu boulimique.
Ce qui est quand même propre aux Américains.
Oui, c'est plus facile d'être boulimique aux États-Unis qu'en France.
Et dans les années 70-80, on n'avait pas encore découvert, tout au moins en France, tous les méfaits des sucres et des graisses. Dans le roman, on croise un grand violoniste, mais on l'aperçoit à peine, c'est David Oistrakh. Et il disparaît assez rapidement dans le roman, mais elle rencontre un autre violoniste de premier plan, pas tellement connu, moins connu que par exemple Yehudi Menuhin, qui est Nathan Milstein, chez qui elle va suivre une masterclass en Suisse. Est-ce que vous pourriez nous caractériser le génie propre de ces deux grands violonistes, David Oistrakh et Nathan Milstein? Pierre Squara.
Oui, moi je ne suis pas un musicologue. Ce qui est certain, c'est que c'était deux grands violonistes de la même école, toujours cette école russe d'Odessa. Et si Mélodie, David Oistrakh disparaît rapidement, c'est parce qu'il meurt. Et c'était le parrain musical de Mélodie. Il l'avait rencontré, il lui avait promis qu'il s'occuperait d'elle dès qu'elle atteindrait sa 13e année. Et comme il est mort, c'est ses parents qui s'imaginent de prendre une autre star de la même école qui est Nathan Milstein et qui était connu pour la perfection et la sobriété de son jeu. C'est un homme qui n'en rajoutait pas, c'est un homme qui allait jusqu'à ralentir la mélodie pour ne pas que la virtuosité s'impose à la mélodie, que le violoniste en fait s'efface devant le compositeur et devant la musique.
Elle rencontrera un autre musicien de ce génie-là, c'est Aaron Rosand, dont elle dit qu'il a un doigté ou un jeu de une douceur de velours.
Oui, c'est vrai. On peut écouter ces enregistrements. Ce sont des musiciens pour lesquels j'ai une tendresse particulière. Ce sont en fait les musiciens qui ne se mettent pas en avant, mais qui sont véritablement au service de la musique et qui éliminent de leur jeu toute esbrouffe, toute arrogance en fait.
On va écouter justement un peu de musique parce que vous citez dans le livre énormément de morceaux qui sont très importants pour Mélodie évidemment, mais pour nous aussi lecteurs, et vous nous en faites découvrir de très nombreux dans de différentes configurations, et là vous avez choisi de nous faire écouter l'intro et le rondo capriccioso de Camille Saint-Saëns. Pourquoi ce choix?
D'abord parce que ma première page commence sur ce morceau, parce que je trouve ce morceau à la fois tragique et merveilleux. Il y a du pathétique dans ce morceau tout en ayant de la joie, et il faudra lire le livre pour voir l'interprétation que j'en fais. Et puis, comme je vais dire un peu de mal d'Isaac Stern dans le livre, parce que c'était une personnalité très imposante, qui tolérait pas la contestation, il faut aussi reconnaître qu'il a fait quelques enregistrements fantastiques, dont celui-là.
On l'écoute.
Thank you.
écoutez Entre Chiens et Loups sur IDFM Radio et nous sommes ce soir en compagnie de Pierre Squara à l'occasion de la publication de ce très beau roman, La Violoniste, qui nous fait découvrir toutes les facettes du monde des solistes internationaux, notamment aux États-Unis. Véronique.
Oui, justement, nous venons d'en parler dans ce livre. Il me semble que vous accordez une place importante et même une responsabilité considérable aux professeurs qui enseignent à ces jeunes musiciens très doués, au demeurant. On peut penser qu'ils ne se valent pas tous, ceci dit. Et quel rôle ont-ils à jouer, selon vous ?
Alors, encore une fois, je ne suis pas un musicologue ni un professeur de musique, donc ce que je dis, ce que j'écris, c'est ce que j'imagine. J'imagine que lorsque vous êtes un professeur de musique et que vous avez un diamant brut comme mélodie, c'est un peu comme lorsque vous avez un sportif de haut niveau. Le plus important, c'est de ne pas brûler les étapes, de lui faire acquérir d'abord la technique, mais ensuite la sensibilité qui vont en faire un grand artiste. Et vous n'apprenez pas la sensibilité à un enfant de 6 ans comme vous l'apprenez à un adolescent. À un moment, je fais dire au professeur qu'elle comprendra la musique quand elle aura compris la force du sentiment amoureux. On doit mûrir sa musique en fonction de sa maturation psychologique. Et je crois que le rôle du professeur, c'est d'accompagner son élève sur ce chemin-là. Donc c'est un éducateur aussi. Et d'ailleurs, l'un de ses professeurs va l'emmener dans un musée pour lui montrer que le temps de travail, au stade où elle sera arrivée, puisqu'à ce moment-là, elle aura 14 ou 15 ans, le temps de travail n'est plus le problème, parce que la technique, elle l'a, et donc ce qu'il lui faut maintenant, c'est apprendre à transmettre une émotion.
Alors précisément, c'est pas, la famille déménage aux États-Unis,
il
quitte la Californie pour Cincinnati et elle a un nouveau professeur. Elle a un peu mûri, mais ce professeur qui s'appelle Joseph Grekov, qui est russe aussi, hein, il y a toute une
lignée. Ce ne sont pas des vrais noms. Hein,
oui, bien sûr. Il y a toute une lignée de grands musiciens russes qui s'installent aux États-Unis, évidemment. Et il lui apprend beaucoup de choses. Il lui apprend. Quoi, Joseph Grekov.
Comme le premier lui avait appris à intégrer le violon à son schéma corporel, le deuxième lui apprend, enfin la cultive en fait, et lui apprend la vie, l'entraîne à rompre avec ses parents. Lui donne l'autorisation de la rupture avec ses parents parce qu'elle était un peu sous cloche, hein. Et donc tout ça va lui permettre de devenir une jeune femme normale, ou plutôt de rejoindre un peu la normalité des jeunes femmes, de vivre un développement psychologique, émotionnel, qui va pouvoir se transmettre dans sa musique et lui donner plus de couleurs.
Elle a évidemment une fascination qui se crée autour d'elle et à propos des instruments. Il se trouve qu'elle est mise en contact d'un certain Robert Calhoun, un personnage ambigu. C'est un grand mécène, un milliardaire californien qui repère chez cette jeune fille des qualités exceptionnelles. Qu'est-ce qu'il lui propose, Robert Calhoun ?
Alors, Robert Calhoun, c'est aussi un prototype d'un type de personnage qu'on rencontre assez souvent dans la musique. Donc, c'est un homme très riche, passionné de musique, lui-même ayant été musicien, mais musicien sans le talent qui lui aurait permis de jouer de la musique au niveau qu'il estime nécessaire. Et donc, plutôt que de finalement, il renonce à ses ambitions personnelles et il va devenir un mécène de la musique. Donc, il va devenir organisateur de réunions, de disques, et bien évidemment, il va essayer de mettre dans son écosystème un certain nombre de poulains, dont Mélodie, et pour cela, il va la pâter avec un très beau violon, puisqu'il va lui offrir le dernier Guarnerius fabriqué par l'artisan italien.
Alors justement, je voulais vous demander, comment est-ce qu'on peut caractériser un instrument exceptionnel de 1744 ?
Le caractériser, mais c'est une signature, parce que des expériences ont montré que quand on écoute à l'aveugle des violons modernes et des violons anciens, on n'est pas capable de faire la différence entre des violons modernes et des violons anciens. Même les plus grands musiciens ne sont pas capables, quand on leur met un bandeau devant les yeux, de l'entendre. Donc en fait, le violon ancien, c'est une signature, c'est un appel marketing, mais pour Mélodie, qui est encore jeune au moment où elle le reçoit, eh bien, elle va reporter sur cet instrument son corps. C'est-à-dire qu'il va devenir, puisqu'elle est maintenant grande, elle est adulte, et il va devenir sa main gauche et sa main droite. Et elle va avoir une relation véritablement physique et psychologique de dépendance à ce violon. Ce sur quoi comptait bien Robert Calhoun. Parce que du coup, il en fait sa chose. Et il entend diriger sa carrière. Et bien des mécènes sont loin d'être désintéressés.
Ah tiens donc, il y a quelque chose d'un peu scabreux chez ce personnage. Est-ce que c'est inévitable dans ces métiers artistiques de très haut niveau d'avoir affaire à ce genre de personnage ?
Alors je n'ai rien inventé. Le scénario du livre n'a pas existé dans une seule personne, mais tout ce que je décris est arrivé à quelqu'un. Et donc, le fait de vous faire offrir un Guarnerius ou un Stradivarius, et en échange d'un certain nombre d'acceptations, de compromis, et le fait d'en être privé lorsqu'on renonce à ces compromis, c'est déjà arrivé plusieurs fois.
On va voyager un petit peu avec Véronique, qui est la meilleure d'entre nous pour parler de ça. C'est de Moscou, puisqu'elle est russophone. Et Joseph Grekov, son professeur, propose à Mélodie d'aller se frotter au plus grand soliste du monde au concours Tchaïkovski à Moscou.
Oui, alors apparemment ce concours Tchaïkovski est très important, en tout cas pour son professeur Joseph Grekov, puisqu'il va tout faire pour qu'elle puisse se présenter à ce fameux concours à Moscou. Donc aussi pour elle, la première fois qu'elle va prendre l'avion. Ah non, elle va d'abord en Angleterre avant d'aller à Moscou.
Oui, elle a déjà pris l'avion, mais c'est la première fois qu'elle va à Moscou.
Elle va à Moscou, oui.
Et son professeur est juré du concours.
Il est juré en plus. Oui.
Donc c'est pour ça qu'il a envie de l'emmener.
Et voilà. Et c'est un peu ce concours comme les Jeux Olympiques, le très haut niveau. Cela exige donc un énorme travail. Qui va dans ce concours d'ailleurs ? Qui va se présenter dans ce concours ?
À ce concours à l'époque, c'était les plus grands musiciens du moment, les plus grands jeunes musiciens du moment, mais que jeunes, ça va jusqu'à 30 ans, et qui avaient déjà gagné des prix dans leur pays. Enfin, c'était le concours international, c'est l'équivalent du Nobel ou des Jeux Olympiques, comme vous disiez. Encore que ce n'est pas un concours où on classe les gens. C'est un concours où on reconnaît une qualité. Il y a eu des années où aucune médaille d'or n'avait été décernée, aucun premier prix n'a été décerné. Et des années où on en décernait deux ou trois. Donc en fait, c'est une reconnaissance.
Hein.
C'est pas un classement.
Oui. Pour préparer ce concours, pour se présenter au concours, il faut avoir acquis avoir assimilé énormément de morceaux. Vous dites dans le roman qu'il y a 4 concertos et 10 morceaux à travailler.
Oui, c'est ce qui d'ailleurs fait la difficulté, parce que à un moment, je le dis même, un musicien amateur, en travaillant 3 ans, est capable de jouer correctement un morceau difficile. En jouer 10 à la suite en 3 jours, ça nécessite une fluidité et une relation à la musique qui est complètement différente. C'est comme quand vous jouez au tennis et puis que vous regardez jouer Nadal. C'est-à-dire, c'est une autre planète. Et donc c'est avec ce niveau de difficulté-là qui évidemment les départage.
On va écouter encore un peu de musique, on va écouter le grand génie et qui fait partie intégrante de ce livre, qui nous fait découvrir à la fois le personnage et le musicien, c'est Paganini. On va écouter votre choix musical qui est le concerto, le troisième mouvement du concerto numéro 5.
Oui, alors Paganini, enfin pour moi, Paganini c'est comme Newton, il y a le violon avant Paganini et après Paganini. Et je trouve que le troisième mouvement du concerto numéro 5 est le plus joyeux, le plus festif, le plus abouti, et j'ai une passion pour les deux premières minutes.
Alors, juste une question avec un Guarnarius.
Ben celui que je ne sais pas quel enregistrement vous allez choisir, mais vous savez qu'en fait on est incapable de faire la différence entre un Guarnarius et un Stradivarius. Par contre, on peut faire la différence entre un bon et un mauvais violoniste.
Concerto numéro 5 de Paganini. Toujours sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Véronique Gastin et Claude Lévy. Nous sommes en compagnie ce soir de Pierre Squara, cardiologue et romancier, qui publie La Violoniste aux éditions du Nouveau Monde. Vous nous faites découvrir dans ce livre un musicien assez mystérieux, qui pour ma part, enfin, que j'ai découvert sous différents jours, ces différentes facettes, c'est Camille Saint-Saëns. Est-ce que vous pourriez refaire un bref portrait de cet homme qui n'est pas si connu comme Debussy ou Ravel?
Oui, alors c'était un homme un peu secret, qui a eu... D'abord, c'était un très très grand musicien, c'était un organiste, mais qui a composé des morceaux pour différents instruments qui sont d'un romantisme poignant. Moi, j'aime beaucoup sa musique. Et dans le roman, j'essaye de comprendre pourquoi cet homme faisait des musiques aussi touchantes. Et quand on étudie un peu sa vie, on s'aperçoit qu'en fait c'était un homosexuel dans une période où c'était pas simple d'être homosexuel, et qu'il a eu une vie d'errance. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup changé de pays, probablement à la recherche d'une stabilité affective qu'il a probablement jamais trouvée.
Notamment, il dédie un de ses morceaux à Pablo de Sarasate, qui est un autre grand musicien qui est finalement assez peu connu, mais ils sont dans cette même sensibilité, un peu proustienne d'ailleurs.
Alors oui, Sarasate était le plus grand virtuose de son temps. Et quand il est passé à Paris, Camille Saint-Saëns lui a dédié ce morceau de musique. Et comme Sarasate a fait aussi quelques morceaux, mais il n'en a pas. Son activité n'est pas de compositeur principalement. Dans le roman, j'imagine, sans preuve historique, qu'il y a pu avoir une histoire d'amour entre les deux.
Comme Proust et Reynaldo.
Voilà.
Ou comme Tchaïkovski et Glinka. Alors justement, on croise de nombreux musiciens, des chefs d'orchestre, des orchestres philharmoniques, dans toutes les grandes salles des États-Unis. C'est un véritable road trip, un road movie musical que vous nous faites vivre dans votre livre La violoniste, publié chez Nouveau Monde. Et vous connaissez tous ces endroits, vous y êtes allé?
Oui, je connais tous ces endroits. J'ai un métier qui a un congrès annuel, et le congrès et donc toutes ces villes, j'ai eu l'occasion de les visiter, oui.
Mais alors, vous nous faites découvrir des orchestres, des chefs, et puis un assistant qui aura une grande importance dans la vie de Mélodie. Vous avez été plongé vous-même dans l'univers musical, en dehors de vos congrès de cardio. Vous alliez au concert aux États-Unis d'un bout à l'autre de l'Est à l'Ouest.
Pas forcément, parce que malheureusement, les concerts, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et puis, dans ces congrès, on a quand même un certain nombre de contraintes. Non, je suis pas quelqu'un qui va très souvent au concert. En revanche, je suis quelqu'un qui est capable d'écouter en boucle 10 fois le même morceau pour m'en pénétrer complètement. Et notamment quand j'écris, en écrivant sur certains passages, je les ai écoutés ad nauseam jusqu'à ce que mes phrases traduisent bien ce que je ressentais en écoutant ce morceau.
Formidable le travail de romancier qu'on ressent, qu'on perçoit immédiatement à vous lire. Mélodie finit après la Californie et Cincinnati, elle vit à New York, elle s'est devenue une star grâce d'ailleurs à un de ses agents, enfin à son agent Lee, un personnage assez discret, mais on sent qu'il a du pouvoir dans votre livre. Alors, elle a beaucoup d'argent, elle vit dans le confort. Est-ce que, selon vous, cette célébrité, cette aisance, rend les artistes plus fragiles, plus vulnérables, ou bien, au contraire, leur donne plus d'assurance? Pierre Squara.
Je n'ai pas véritablement réfléchi à ça. J'imagine que, enfin, quand vous êtes un artiste du calibre de Mélodie, qui est habité par sa musique, qui n'aurait pas pu faire autre chose, qui ne sait faire que ça, l'argent, c'est juste la possibilité d'avoir un confort, de pouvoir simplifier sa vie, mais je crois pas que ça soit la finalité de son travail. Et en plus, elle, dont les parents étaient communistes, qui a été élevée dans une atmosphère, disons, de partage, elle culpabilise un petit peu d'ailleurs de gagner tant d'argent, et elle s'aperçoit paradoxalement qu'elle culpabilise plus que ses propres parents,
qui sont de la tradition communiste qu'on a connue plutôt en France plus qu'aux États-Unis. Enfin, je peux l'imaginer.
Ses parents sont pas choqués parce qu'elle n'exploite personne.
Voilà, et ils peuvent en bénéficier un petit peu des retombées.
Contrairement à ses parents. Alors, dans le Colorado, à Denver, exactement, elle fait la connaissance de ce fameux Damon, qui est assistant du chef d'orchestre et pour qui elle a un coup de foudre.
Ben oui, c'était inévitable. Donc elle a eu une vie assez ascétique. Elle n'a pas eu d'aventure. Elle n'allait pas dans les booms. Elle n'allait pas dans les soirées.
Elle était obèse déjà.
Elle était obèse. Ouais. Et donc, et donc sa vie sentimentale était forcément réduite à zéro.
Mais ça a une conséquence.
Et justement, comme elle compte se marier avec lui, son mécène n'est pas tout à fait d'accord. Il va lui donner à choisir entre sa carrière et son mari. Et que va-t-elle choisir ?
Et c'est là que le mécène se révèle moins désintéressé que prévu. Et lorsqu'elle tombe amoureuse et qu'elle elle n'imagine pas autre chose que de se marier, d'autant plus que cet amour est partagé, elle annonce à son mécène qu'elle va se marier comme une joie. Et le mécène y voit comme un frein à sa carrière, parce que c'est vrai que peu d'artistes qui ont connu un mariage heureux ont pu continuer la carrière sur le rythme qu'ils avaient auparavant. Et donc il lui dit, il va falloir choisir, et comme elle ne choisit pas. En fait, quand on voit son développement et quand on voit son parcours, elle ne peut pas renoncer à cet homme. Ce serait
cet homme, c'est Dave Damon.
Voilà, donc elle renonce bien sûr pas à son mariage, et le mécène reprend le Guarnerius, et évidemment tout a été mis en place depuis le début du livre pour qu'elle le vive comme une amputation.
Et effectivement, cette amputation est absolument terrible. On le vit avec elle, ce drame, cette séparation, cette rupture. Ça provoque en elle une très grave dépression qui la coupe de tout. Elle vit avec Damon et puis ils ont des enfants. Donc ils sont à New York, et vous donnez une sorte de clé pour sortir de la dépression. Vous en donnez quatre. La première, c'est d'éliminer son tortionnaire. Parce que le roman se bascule de la musicalité au roman policier. C'est assez amusant. Fort parce que évidemment on a cette dépression qui est là, qui est incrustée en mélodie. Donc première solution pour sortir de la dépression, c'est d'éliminer son tortionnaire. La deuxième, c'est de faire une psychanalyse. Les deux peuvent fonctionner ensemble. La troisième, c'est de faire des enfants. Et la quatrième, qui est la plus amusante et la, je pense, qui est réussie très très bien, c'est de chanter et danser de la musique country. Pierre Soirin.
En fait, je suis un peu prisonnier du scénario que j'ai créé. Donc, Mélodie est amputée, elle tombe dans la plus noire des dépressions, et puis après, comment je vais leur faire sortir de là? Et donc, ça peut pas se faire en trois pages, puisqu'elle est vraiment tombée au fond du trou. Et donc, j'imagine, avec les outils des années 70, comment on pouvait sortir d'une dépression à cette époque. Et j'ai imaginé les quatre scénarios que vous venez de dire. Et je les ai poussés, évidemment, jusqu'au bout, puisque sa résurrection va prendre un certain nombre d'années.
Effectivement, plusieurs années pendant lesquelles elle va élever ses enfants et se poser la question en permanence de savoir quelle part je dois donner pour être moi-même à ma vie de musicienne ou à ma vie de femme et de mère de famille. Ça sera toujours un peu difficile, ce choix, comme pour nous tous, non ?
Et oui, et elle comprend que ça fait partie de son dilemme, c'est de savoir, et ça fait partie de sa dépression, c'est de savoir quelle énergie elle va donner à la musicienne et quelle énergie elle va donner à la mère de famille, et ça va un peu structurer sa remontée.
Et d'ailleurs, elle va reprendre cette chère Mélodie, sa carrière, avec différentes aides. Finalement, heureusement, et elle se lancera un défi, comme quelqu'un qui se lance à l'assaut de sommet après avoir été amputé d'une jambe, et d'enregistrer à la suite 6 concertos de Paganini.
Alors ça, c'est la fin de la fin. Oui. C'est-à-dire pour elle, au cours de sa remontée, son mari lui fait découvrir un concerto de Paganini. Évidemment, elle n'ignorait pas qui était Paganini. Milton lui en avait parlé quand elle était enfant, mais donc elle le redécouvre comme musicien, alors qu'avant elle l'avait découvert comme personnage célèbre. Et elle tombe amoureuse de cette musique, et elle se donne finalement un challenge. Elle se dit, voilà, je vais faire quelque chose d'extraordinaire pour marquer mon retour dans la cour des grands, et elle imagine enregistrer à la suite les 6 concertos de Paganini. Alors là, j'ai été un petit peu déçu, parce que je pensais que j'avais découvert le Graal absolu de la musique, et je me suis aperçu qu'en fait, quelqu'un l'avait fait. Ah. Donc il y a un musicien arménien qui a fait les 6 concertos de Paganini.
Et qu'on retrouve d'ailleurs dans le roman.
Oui, que je cite, hein, parce que moi je cite toujours mes sources. Et donc, voilà. Mais c'est quand même un exploit qui n'a pas été fait très souvent. Et donc, voilà. C'est le challenge qu'elle se donne. Pour se prouver à elle-même, prouver à son mari, et puis finalement prouver au monde entier qu'elle est revenue une grande musicienne.
Oui, parce que il faut bien préciser ce que vous faites vous dans le roman après avoir écouté ces 6 concertos. On parle de 6 concertos, mais en réalité c'est 50 000 notes à comprendre, à apprendre et à jouer. C'est quand même pas rien.
À jouer, et c'est parmi les plus difficiles que du violon. Et c'est aussi un test, parce que Paganini, la virtuosité, elle est dans la musique. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. D'ailleurs, il y a une réflexion sur la virtuosité que Mélodie conduit, et donc elle dit que voilà, elle va pas en rajouter. Paganini suffit à lui-même, c'est pas la peine d'en rajouter. Et c'est là qu'elle se souvient de l'enseignement de Milstein. Voilà, elle est au service de la musique, et c'est pas comme certains musiciens que je cite dans le livre, mais je vais pas les citer là parce qu'on va croire que je leur en veux personnellement, qui utilisent la musique à leur service.
Véronique a une question un peu personnelle pour vous.
Oui, parce que quand même, on se demande si c'est une fiction ou à qui vous pensiez en inventant le personnage de Mélodie.
Alors, c'est une fiction, mais qui est librement inspirée de vie réelle. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est arrivé à Mélodie est arrivé à quelqu'un. Mais j'ai créé un personnage en prenant des bouts d'autres personnages.
Oui, effectivement, ça c'est le travail du romancier, hein, de créer des personnages pareils, mais c'est vrai qu'elle est très présente, très attachante à différents moments. Bon, elle a toute une vie compliquée sur le plan affectif, dans sa propre relation à elle-même, mais ça on le découvrira dans le roman. On arrive presque au terme de cette émission, et vous parliez de grands musiciens, être grands virtuoses. Il y en a un qui a été à la tête d'ailleurs de l'orchestre de Berlin qu'il dirige, c'est Daniel Barenboim. Dites-nous un petit mot de ça avant qu'on l'écoute dans Tico Tico, un morceau tout à fait drôle.
Oui, enfin, Daniel Barenboim, c'est un des grands chefs actuels. Et c'est vrai que il n'a pas, mais Mélodie ne le rencontre pas dans le livre. À un moment, elle se dit que il est trop connu, elle ne l'a pas assez fréquenté. C'est pas avec lui qu'elle va pouvoir enregistrer ses 6 concertos. Il est un peu intouchable. Mais j'avais quand même envie de faire un petit clin d'œil à Daniel Barenboim en m'inspirant de l'enregistrement qu'il a fait de Tico Tico avec l'orchestre de Berlin, avec le Philharmonique de Berlin, et j'aime bien ce morceau, et donc je l'ai fait jouer à Mélodie et à l'orchestre de Redland comme finale du livre.
toujours en compagnie de Pierre Squara, de Véronique Gastin, dans l'émission Entre Chien et Loup, sur IDFM Radio. Et j'aimerais que vous nous donniez un court extrait de votre livre La Violoniste, Pierre Squara, puisqu'on voyage aux États-Unis, vous nous faites visiter une contrée assez peu connue, et je vous laisse lire un extrait de votre livre, La Violoniste.
Alors c'est un passage important du livre, parce que c'est là où elle va découvrir Paganini, son mari va lui faire découvrir Paganini, mais dans une ambiance particulière, qui est une des premières fois où ils vont partir en amoureux tous les deux, et donc ils vont dans un endroit du nord des États-Unis. Ce trajet nous prit 2 heures, apaisé par la désagrégation progressive des stigmates de l'humanité écorchant la nature originelle. Les derniers milles, une neige nouvelle effaçait même la route dont on ne devinait plus que le souvenir par des congères et les tranchées dans la forêt. À l'arrivée, en regardant à la ronde, nous nous sommes ménagés un instant d'admiration respectueuse. L'endroit était effectivement imposant, magnifique, vierge de toute civilisation. On le découvrait tel que l'avaient connu les Indiens Penobscot dans la nuit des temps, déposé dans un retable de bois, de lacs et de rivières, entre le mont Chase à l'ouest et le Cataline au sud-est. Le cottage était petit mais ravissant, bâti de cèdres de Ponderosa, abrité derrière un bosquet au bord du lac supérieur. Ce dernier, gelé déjà et recouvert de neige, tendait un espace immaculé d'un mille de long et d'un demi-mille de large. Le ciel, selon les heures, plombé, saphir ou flamboyant, élargissait encore l'espace pour amplifier le silence et l'impression de solitude sidérale.
Voilà un très beau moment. Il y en a beaucoup dans le livre où on voit que vous avez énormément travaillé le style de votre écriture. Alors je voudrais dire à quel point ce roman plaira à toutes celles et tous ceux qui aiment la musique, qui peut-être la pratiquent ou bien pas ou non, aux parents qui veulent que leurs enfants apprennent la musique. Ils découvriront une histoire riche, pleine de réflexion sur cette chose extraordinaire qui est celle d'apprendre au meilleur niveau. Un très grand merci, Pierre Squara. Je rappelle le titre de votre livre, La Violoniste, aux éditions du Nouveau Monde. Merci à Véronique Gastin pour cette excellente suggestion de lecture. Voilà, merci encore, merci. Pierre Squara.
Merci à vous, merci.
Merci Véronique.
Merci Claude et merci Pierre Squara.
Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h sur IDFM Radio pour une nouvelle émission Entre Chien et Loup consacrée aussi à Enghien et aux gens d'Enghien, les gens de Enghien. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio. Il va être 19h et c'est l'heure de retrouver nos amis de langue portugaise pour Lusso Mundo. Bonne soirée à tous.